podcast France Culture.
Quel est le point commun entre Castorama, Simone de Beauvoir et la Motte Beuvron? Eh bien, sous chacun de ces noms se cache le castor. Si aujourd'hui cette espèce vous paraît incongrue ou exotique en France, il faut savoir qu'il y a encore quelques siècles, il y en avait partout. Aujourd'hui, beaucoup de noms de villes, de villages, de rivières portent son nom. La Motte Beuvron dans le Loir-et-Cher, Beuvry dans le Pas-de-Calais. Plusieurs villes s'appellent Bièvre, près de Namur en Belgique, mais aussi dans la Somme, dans l'Aisne, les Ardennes, l'Essonne, et même Bibiche en Moselle. Tous ces noms sont des dérivés du nom gaulois du castor, Bébrousse. Quant à la célèbre chaîne de magasins Castorama, chez Casto il y a tout ce qu'il faut, eh bien ce sont les magasins des bricoleurs bien sûr, dont le castor est un symbole absolu. Et puis dans un autre domaine, une de nos plus grandes philosophes était surnommée le castor. C'est Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, surnommée ainsi parce que le nom anglais du castor, Beaver, ressemble à Beauvoir. Beauvoir, Beaver. Et oui, on ne naît pas castor, on le devient. Dans ce deuxième épisode dédié aux constructions animales, c'est le castor qui s'invite. Grâce à lui, nous allons décortiquer les mécanismes qui font qu'une espèce est ingénieure dans un milieu. C'est-à-dire qu'elle attire d'autres espèces, la vie, la fertilité, bref, la diversité. Vous allez comprendre pourquoi et à quel point 1 plus 1 font beaucoup plus que 2 dans le cas du castor aussi. L'Européen, comme son cousin américain, sont à la fois des architectes, des botanistes, mais aussi des hydrologues qui régulent le débit des cours d'eau à leur avantage.
Deuxième épisode, le castor, architecte et hydrologue.
Je dois dire que j'entends parler du castor partout ces derniers temps. D'abord, c'est le personnage principal du livre « L'inexploré » de Baptiste Morisot qui y voit un formidable allié pour réensemencer la vie et retenir l'eau le long des cours d'eau. Et il a raison. À l'heure des crues, des inondations et des sécheresses, des scientifiques états-uniens ont démontré que le castor est un formidable allié naturel de l'humain. D'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais parlé du castor dans la première saison de Mécanique du vivant sur le loup. Nous avions vu à quel point il était, tout comme le loup, une pièce maîtresse qui avait permis le retour de tant d'espèces au parc Yellowstone aux États-Unis. Et en quoi faisant? En ralentissant le cours des rivières et en recréant des zones humides propices à tant d'espèces. Tiens d'ailleurs, juste au-dessus du Yellowstone, au Canada voisin, le castor est l'un des emblèmes officiels, en plus de la feuille d'érable. Reconnu comme patient et travailleur, ce père peinard de la mare des canards figure sur des timbres et des pièces de monnaie. Et c'est un retour en grâce pour une espèce qui a bien failli être exterminée par les trappeurs qui revendaient sa fourrure et aussi le castoreum, une substance huileuse issue d'une glande qui imperméabilise son pelage. C'est un étrange trésor au goût de framboise ou de vanille qui a longtemps été utilisé en médecine et en parfumerie. Et si le castor est un revenant en Amérique du Nord, il l'est aussi en France. Il y en avait encore des millions dans l'hémisphère nord il y a quelques siècles. Mais en 1960, il n'en restait plus que quelques dizaines sur le Rhône. En 1968, branle-bas de combat, l'espèce a été strictement protégée, puis réintroduite dans plusieurs régions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autour de 25 000 castors en France. Alors qu'est-ce qui fait du castor un bâtisseur si spécial ? Comme beaucoup de rongeurs, les castors aménagent un abri qui leur sert d'habitation pour l'hiver et de nid pour l'élevage de leurs jeunes. Et c'est fou quand on y pense. Tout ce que fait le castor, c'est pour maintenir l'entrée de sa maison sous l'eau, inaccessible aux prédateurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il y a deux façons de le faire. Soit il creuse une galerie sur une berge dont l'entrée est sous l'eau, soit il construit une hutte en plein milieu de son barrage dont l'entrée est sous l'eau aussi. Ça, c'est juste le point de départ. La suite, c'est Bruno Corbara, biologiste et spécialiste des constructions animales, auteur d'un livre magistral sur la question, qui nous la raconte.
Donc ils sont protégés de cette façon contre les prédateurs. Le seul problème de ce type de construction, c'est que ça marche très bien si l'eau, elle reste, le niveau d'eau reste constant. Si l'eau, le niveau d'eau baisse, l'entrée va être ouverte et accessible par d'autres que les castors. Si l'eau monte trop, les loges vont être envahies. Et c'est là où interviennent les barrages. Les barrages n'ont d'autre fonction que réguler le niveau d'eau. Donc, ce que vont faire les castors, c'est que quand il n'y a pas assez d'eau, il faut retenir l'eau au maximum, donc les castors vont consolider le barrage. Quand il y a trop d'eau, à contrario, ce que vont faire les castors, c'est qu'ils vont faire construire des ouvertures dans le barrage pour évacuer le plus d'eau. Et donc, c'est ça la fonction des barrages. Et ces barrages, en Amérique du Nord, moi j'en ai vu au Canada, qui faisaient des centaines de mètres de long. Et alors ça, c'est pas un seul couple de castors qui construit ça. Hein. C'est plusieurs couples sur plusieurs générations qui vont parfois construire des barrages qui régulent comme ça le cours des rivières hein, pour stabiliser le niveau de l'eau hein, sur la partie en amont du barrage. Et ça, ça va être un grand nombre de castors qui vont y participer.
L'union fait la force. Aussi chez ces bâtisseurs. Surtout que les deux espèces de castors, l'européen et l'américain, sont les deuxièmes plus gros rongeurs du monde. Ils pèsent en moyenne 15 à 30 kilos. Ce goinfre en forme de péniche mange ses 4 kilos d'écorce tendre chaque jour, de préférence des écorces de bois blanc, du saule, du peuplier, de l'érable ou du tremble. Ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai vu un castor, ce sont ses quatre incisives oranges. Et pourquoi orange ? Parce que l'émail de ses dents est renforcé avec du fer. Armé d'un tel ciseau à bois, il taille des copeaux de 10 cm et peut abattre un tronc de 50 cm de diamètre en quelques jours à peine. Un mot aussi sur la célèbre queue plate de cet animal, source de tant de blagues. Eh bien, c'est le couteau suisse du castor. Et elle a au moins trois usages. Le moins visible et le moins connu. C'est qu'elle est une réserve de graisse, un peu comme la bosse du chameau, pour les périodes de disette. C'est aussi une aide ondulante à la propulsion, en plus de ses pattes arrière palmées. Mais quand je vous disais couteau suisse, elle a aussi un autre usage très différent. Ce que vous venez d'entendre, c'est le signal d'alerte du castor qu'il fait en claquant sa queue sur l'eau dès qu'un intrus se présente sur le territoire. C'est donc une sentinelle, le castor, un peu comme les geais en forêt dont je vous parlais dans la saison de Mécanique du vivant dédiée aux corvidés. Avec sa fourrure dense de 23 000 poils au centimètre carré, contre 8 000 pour un chat, ses dents renforcées avec du fer, sa queue couteau suisse, les castors créent des oasis de vie dans les milieux.
Imaginons une rivière, il n'y a pas de barrage. Bon, cette rivière, il y a une certaine homogénéité sur le long de la rivière. Imaginons maintenant que les castors construisent un barrage. Eh bien, tout de suite, ils vont introduire une différenciation avec, en aval du barrage, la rivière qui coule, et en amont du barrage, une retenue d'eau. Donc, deux milieux totalement différents, et par conséquent, on va avoir une faune et une flore différentes sur ces deux endroits. Il va y avoir des poissons, des insectes aquatiques et des plantes aquatiques différentes sur les deux endroits. À un endroit, il y a l'eau qui est stabilisée, à un autre endroit, il y a un courant très rapide. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, quand on crée ce barrage, quand les castors créent ce barrage, il va y avoir une inondation. Les forêts aux alentours vont être inondées. Donc il va y avoir mortalité d'arbres, ils sont noyés, leurs racines sont noyées. Donc on va avoir à un endroit des arbres qui meurent. Les castors, pour construire ce barrage, vont tuer des arbres, ils vont en abattre, ils vont récupérer des branches, etc. La forêt aux alentours d'un barrage va être clairsemée. Donc ça change complètement la physionomie de la forêt à cet endroit-là. Il y a plus de lumière qui rentre, etc., etc. Donc ça, c'est à un moment donné. Maintenant, imaginons sur le temps plus long. Imaginons une rivière à castors sur laquelle eh bien, il y a un barrage, puis il y a un autre barrage plus loin, etc. etc. Et imaginons qu'un des barrages disparaisse. La famille de castors est morte, n'est plus là, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce barrage va se désagréger. Et là où on avait une retenue d'eau, progressivement, on va avoir une zone un peu humide qui va s'assécher progressivement, qui va se recoloniser. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font, ces castors ? C'est là où ce sont des véritables ingénieurs de l'écosystème au niveau de territoire assez important, c'est qu'ils vont créer des véritables mosaïques de milieux.
Les castors sont donc des accélérateurs de fertilité. En ralentissant le cours des rivières, davantage de sédiments peuvent se déposer. Plus de vie pousse, ce qui attire des insectes, des poissons, leurs prédateurs, de nouvelles plantes. Par ailleurs, de jeunes arbres peuvent se développer dans les trouées de lumière dégagées par les arbres abattus. Bref, la liste des bienfaits des castors est sans fin. Pour les humains aussi, leur présence est intéressante. Les barrages des castors tendent en effet à favoriser le stockage de l'eau dans les sols, dans les nappes, et aussi à faire baisser la température de l'eau. On voit tout de suite les avantages face aux crues, aux inondations et même aux sécheresses. Ces zones humides, enfin, sont aussi d'excellents puits de carbone, donc très bonnes pour le climat. Mais attention! La cohabitation avec le castor nécessite quand même un certain suivi, Car les castors ne sont pas qu'une baguette magique. En 1946, des officiers argentins ont introduit 20 castors en terre de feu, en espérant lancer un commerce de peau, un peu comme au Canada. Et le résultat est jusqu'à aujourd'hui une des pires catastrophes écologiques de tous les temps. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison toute simple. Les arbres locaux n'ont pas évolué avec le castor. Ils sont incapables de résister à son passage. Dans l'hémisphère nord, les saules qui ont coévolué avec les castors font des rejets dès que les rongeurs coupent un tronc ou une branche. En revanche, dans l'hémisphère sud, les hêtres abattus par les castors n'ont jamais eu ni le besoin ni l'opportunité de développer ce genre de défense. Et donc, quand j'ai visité la Terre de Feu, la plupart des étangs autour d'Ushuaia étaient entourés d'un pourtour d'arbres morts qui ne repousseront plus jamais. Sans prédateurs pour les réguler, il y a aujourd'hui plus de 100 000 castors en Terre de Feu et ils continuent malheureusement à remonter vers le nord. En France, le castor pose aussi parfois quelques problèmes d'abattage d'arbres, mais c'est sans commune mesure avec le cas fuégien, il faut pas exagérer. L'Office français de la biodiversité, en tout cas le gendarme de l'environnement, propose de clôturer les zones d'arbres à préserver. Il faut juste leur laisser une petite partie boisée de 20 mètres le long des berges, où ils pourront vivre et se nourrir librement. La grande leçon de cet épisode, c'est que là où les espèces sont habituées à évoluer ensemble, elles se régulent entre elles. Elles ont le temps de sélectionner des mécanismes qui leur permettent de s'adapter aux différents aléas. Ces mécanismes arrivent à des degrés de raffinement qui inspirent jusqu'à l'humain. Dans le troisième épisode de cette saison sur les plus formidables constructeurs du monde animal, nous allons en effet voir comment les termites, des insectes aveugles dotés d'un tout petit cerveau, parviennent à élever des cathédrales, climatisées en plus. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. Merci, à bientôt.